Vous écoutez.
Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir.
Cinéma Radio.
Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu.
Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique.
Il décidait tout bonnement. Ça avertit personne.
Louis de Funès.
Et même les acteurs de cinéma.
Louis de Funès.
Au senti, ça fait nous la peine.
La disparition de ce comédien.
33e épisode, l'avare, l'œuvre d'une vie et la soupe aux choux.
C'est le plus grand poste de toute la ville. Bixou.
Un mois avant la sortie de l'avare, Louis Rosevet, le 2 février 1980, un César d'honneur des mains de Jerry Lewis lui-même. Et la star américaine provoqua l'hilarité de l'assemblée quand il tenta d'embrasser vigoureusement l'acteur récompensé. Pour De Funès, c'était enfin la reconnaissance d'une profession qu'il avait si souvent boudée, non seulement au début de sa carrière, mais également après sa starification. Mais cette récompense est aussi, pour lui, un signe que la fin est proche.
J'ai le trac. Comment pourrais-je pas l'avoir ?
Et moi, non.
Mais un autre très grand acteur, un des princes du rire, saura bien mieux que moi vous remettre ce trophée. Will you please, Mr. Jerry Lewis ?
Louis, it is my pleasure to present to you from the French Academy this award of great achievement. When they called me and they said you will give the award to Louis de Funès, I said formidable. It is my pleasure, privilege, and it is a heavy son of a gun. Bravo.
Après le gros succès commercial du Gendarme et les Extraterrestres, Louis sait qu'il n'a plus de temps à perdre. Il faut donc que de ce vide artistique total mais lucratif en sorte quelque chose de plus consistant et plus durable. Et il faut savoir que son plus grand désir artistique et son plus grand regret aussi, c'est d'avoir toujours voulu jouer l'avare de Molière sans jamais y parvenir. Comme je l'avais dit dans un précédent épisode, l'acteur faillit jouer cette pièce en 1959, mais comme écrasé par l'ampleur du rôle, il renonça et se rabattit sur Oscar avec le succès que l'on sait. Et en 1964, l'année où il devint une star, il enregistra quelques extraits de la pièce, ainsi que d'autres œuvres de Jean-Baptiste Poquelin, dans un disque 33 tours intitulé « Louis de Funès joue Molière ».
La gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut-être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ? Ou courir ou ne pas courir ? N'est-il point là ? N'est-il point ici ? Qui est ? Hey, arrête ! Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais.
Et donc, à la fin des années 70, Louis décide de sauter le pas et de jouer enfin Harpagon, mais pas au théâtre à cause de sa santé défaillante, mais à la télévision. Cependant, les dirigeants des trois chaînes de l'époque refuse le projet. En effet, la pièce avait déjà été adaptée 2 ans auparavant. Et c'est son producteur et manager Christian Fechner qui lui propose d'en faire une grosse production cinématographique, lui fournissant de ce fait des moyens financiers très importants pour l'époque. Toutefois, Louis impose ses conditions. Ce sera lui et personne d'autre qui réalisera ce qu'il juge être l'œuvre de sa vie. Il acceptera cependant de ne s'occuper que de la direction d'acteur. L'aspect technique sera dévolu à son complice de toujours, Jean Giraud, qui sera co-réalisateur du film. Et le film sortira donc le 5 mars 1980.
Des mille écus en or. N'est-ce pas qu'on en voudrait mon argent ?
La peste soit de l'avarice et des avaricieux !
L'avare ou l'école du mensonge est une pièce de Molière qui sera jouée pour la première fois le 9 septembre 1668 sur la scène du Palais Royal. Il s'agit en fait d'une adaptation très libre de La Marmite, une pièce de Plaut, un auteur comique latin mort en 184 avant Jésus-Christ et qui inspira de nombreux dramaturges comme Molière, mais également Shakespeare.
Ne vous offensez pas, ma belle, je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent à seuls les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres.
Dans son film, Louis joue bien évidemment Harpagon, l'avare de la pièce, un riche propriétaire, économe à l'excès. Pour conserver son argent, celui-ci a trouvé une méthode étonnante. En effet, il a enterré dans un coin de sa propriété une cassette contenant 10 000 écus d'or. Cet emplacement, personne ne le connaît, et c'est pour cette raison qu'Harpagon épie et soupçonne constamment son entourage, domestique comme familial.
Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi ?
Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâche à point.
Non, en aucune façon.
Pardonnez-moi, monsieur, je sais fort bien que je vous mettrai en colère.
Pas du tout, au contraire, c'est me faire plaisir. Je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi.
Quand il avait créé la pièce, Molière entendait critiquer tous les nouveaux riches gravitant autour du roi, afin de dénoncer leur avidité, mais également leur sexisme. C'est pourquoi Harpagon va planter un couteau dans le cœur de ses enfants, en les privant de leurs amours respectifs.
C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens.
Je suis très humble servante au seigneur Anselme. Avec votre permission, je l'épouserai point.
Je suis votre très humble valet. Avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir.
C'est une chose où vous ne me réduirez point.
C'est une chose où je te réduirai.
Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari.
Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Ah, mais voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père?
Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte?
Cependant, le valet de ce dernier, La Flèche, joué par Bernard Ménez, va tenter de contrecarrer les plans du vieil avare. Et comme par hasard, Harpagon finit par s'apercevoir, horrifié, que son argent a disparu. Ivre de rage, celui-ci va remuer ciel et terre pour trouver sa cassette, n'hésitant pas à soupçonner ses propres enfants.
Qu'est-ce que c'est ?
Le trésor de votre père que j'ai attrapé !
Comment as-tu fait ?
Vous saurez tout. Sauvons-nous, je l'entends crier.
Au voleur ! Au voleur ! Assassin ! Au meurtrier ! Justice ! Juste au ciel ! Je suis perdu ! Je suis assassiné ! On m'a coupé la gorge ! On m'a dérobé mon argent ! Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ?
Mon pauvre argent ! Mon cher ami !
Tout est fini pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en vis plus. Je me meurs. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris ? Que dites-vous ? C'est des personnes.
Ah. Je vous allais quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi.
Il faut savoir que si Louis avait voulu au départ jouer la pièce, c'était en grande partie à cause de ce monologue. C'est pour ça qu'il en fit un véritable morceau de bravoure qu'il termine en bouquet final sur une scène de théâtre éclairée de façon moderne devant le roi Louis XIV. Et à la sortie du film, l'acteur avouera que sa façon de jouer dans cette séquence sera directement inspirée par sa mère quand celle-ci suspectait son fils de vol d'argent.
Que de gens assemblés ! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur ! Hé ! De quoi est-ce qu'on parle là ? De celui qui m'a dérobé ? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise ! N'est-il point caché là, parmi vous ? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait !
De Funès et Giraud utiliseront tout le long du film de nombreux artifices comiques, tels que gags visuels ou encore séquences oniriques, dans le but d'égayer un tant soit peu un spectacle quelque peu austère pour son public habituel. L'acteur n'hésite pas non plus à utiliser son art du déguisement comique avec la célèbre scène où Harpagon est affublé d'un costume orné d'une queue de paon. Et sans oublier, bien sûr, la séquence où son personnage parle comme Donald.
Numéro de Donald, à la fin, au tribunal, tout ça. C'est extraordinaire. Moi, j'étais derrière, je me mordais au sang parce qu'il fait Donald.
Michel Modo, dans le making-of du DVD de l'avare.
Et c'est moi qui lui avais dit un jour. J'ai dit, vous savez, vous êtes Donald. Votre personnage, c'est Donald. Vous êtes méchant avec les faibles et lâche avec les forts, et c'est Donald.
Et citons également le fameux running gag du film, où Harpagon est ponctuellement poursuivi par une bonne sœur faisant la quête. Et c'est d'ailleurs sur ce gag que se termine le film, dans une séquence mémorable où Harpagon tire sa cassette dans le désert, toujours poursuivi par la bonne sœur. Ayant la folie des grandeurs, l'acteur exigea que cette séquence soit tournée dans un vrai désert, celui de Nefta en Tunisie, précisément le même où George Lucas tourna les scènes de Star Wars censées se dérouler sur la planète Tatooine. De plus, dans un souci d'authenticité maniaque, l'acteur exigea que le coffre qu'il devait tirer, et censé contenir 10 000 écus d'or à l'intérieur, aurait exactement le même poids. Au final, cette séquence qui dure à l'écran un peu moins d'une minute aura coûté à la production la bagatelle de 260 000 francs, à savoir 39 500 euros à peu près.
Il a eu des trouvailles de gags formidables.
Claude Jansac, toujours dans le making-of du DVD de l'Avare.
On lui a reproché de ne pas garder le Molière solennel. Non, pourquoi ? Il a rajouté des trucs, il devait ouvrir un tiroir normalement. Le tiroir, il se déroulait jusque de l'autre côté de la pièce. Enfin, il avait des idées comme ça, qu'aurait très bien pu avoir Molière.
Bref, pendant tout le tournage, De Funès vérifie tout et ne laisse rien au hasard, que ce soit les costumes, les décors ou encore le dialogue de la pièce. Vouant au texte de Molière une passion et un respect absolu, l'acteur se refusa de couper ne serait-ce qu'une ligne des dialogues. Mais le problème, c'est que les séquences sans harpagon, où apparaissent notamment Élise, Marianne, Valère et Cléante, sont expédiées en vitesse et surtout interprétées par de jeunes premiers et premières plutôt inexpérimentées. Ce qui fait au final de cet objet cinématographique un film extrêmement bancal.
Louis, dans l'Avare, ne dirigeait personne. Ceux qui voulaient avoir, un conseil, ça, oui, il le donnait, mais c'est tout. Le dernier acte était très difficile dans Molière. À jouer. Et il avait en face de lui un garçon qui venait du français et lui, en face, n'arrivait pas à dire tout le texte. Il le sentait pas, ça n'allait pas. Et à mon grand bonheur, il a enchaîné et il a joué. Parce qu'il avait été très impressionné. Les gens de la comédie française, ceux qui avaient l'habitude des grands classiques, ils se sentaient tout petits. Il était vraiment d'une modestie pas croyable.
En revanche, pour ces scènes, l'acteur s'est fait plaisir puisqu'il s'est entouré de ses acteurs préférés avec qui il semble énormément s'amuser. Parmi eux, nous retrouvons le duo Grosso et Modo, gendarme dans tous les films de la série, mais également ancien branquignol comme Louis. Sans oublier sa partenaire fétiche, Claude Jansac, qui interprète cette fois-ci Frosine, une intrigante souhaitant profiter financièrement du mariage entre Harpagon et Marianne.
Elle ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir.
C'est que elle est encore toute surprise. Et les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme.
Tu as raison.
Et l'indispensable Michel Galabru interprétera lui Maître Jacques, le cuisinier d'Harpagon, subissant sans arrêt la colère de son maître, colère aussi bien verbale que physique, quand Harpagon le roupe cou avec une bûche de bois.
Voulez-vous que je vous dise, l'on ne saurait aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde, et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesse Mathieu.
Ah ah ah.
N'avais-je pas deviné, hein ? Je vous l'ai bien dit, je vous fâcherai de vous dire la vérité. Mais apprenez à parler !
Pour résumer, le film comporte de nombreux éléments positifs, mais se révèle beaucoup trop hybride pour réellement convaincre. Empruntant autant à l'adaptation de théâtre de boulevard qu'à des éléments de théâtre contemporain, beaucoup plus ardus, le film cherche également à attirer le public habituel de Louis avec des effets comiques dignes du gendarme. Résultat, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais le défaut le plus notable se révèle être sa mise en scène, beaucoup trop statique et paresseuse, bref, la marque de fabrique de Jean Giraud. Et on se prend à rêver à ce qu'aurait pu faire Édouard Molinaro dans cette situation s'il avait réussi à mieux s'entendre avec De Funès.
Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.
À sa sortie, et c'était prévisible, le film plafonne à un peu plus de 2 500 000 entrées France, ce qui était excellent pour l'adaptation d'une pièce classique, mais assez décevant pour un De Funès, surtout avec un budget pareil. Cependant, pour l'acteur, sentant inconsciemment qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, le pari est gagné. Le film qu'il désirait faire depuis 20 ans est fait.
Bonjour les enfants, l'histoire de chat et de chaton que je vais vous raconter aujourd'hui à partir du grand dessin animé de Walt Disney n'est pas une histoire ordinaire. Tout d'abord parce qu'elle concerne des chats très 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 distingués. Les aristochats, en anglais ça se dit the aristocats. Alors vous voyez, chat, cat, c'est presque le même mot. Il y a simplement un arche qui s'est perdu entre la France et l'Angleterre.
Au même moment, Louis participait vocalement à un objet culturel que ceux qui, comme moi, étaient des enfants dans les années 80 connaissent bien, à savoir bien sûr les fameux disques 33 tours édités par Disney et proposant les histoires de tous les mythiques longs-métrages de la firme Mickey. Et la particularité de ces livres-disques, c'est que les histoires étaient lues par de grandes vedettes du cinéma français comme Jean Rochefort, Catherine Deneuve, Philippe Noiret ou encore, beaucoup plus arbi, les frères Bogdanov pour l'histoire du film Tron. Et De Funès racontait, lui, l'histoire des Aristochats dans un disque sorti en 1980 qu'il réussissait à agrémenter avec des trouvailles comiques de son cru.
Cette histoire n'est pas ordinaire. Ah ben non, j'ai déjà dit le mot ordinaire. Si vous attendez, il faut trouver un autre mot pour enrichir votre vocabulaire. Attendez. Ah, banal. Voilà, elle n'est pas banale parce qu'elle est un tantinet policière. On y trouve de tout. Des chats, des chiens, des hommes, des oies et un chat héroïque, un chat où c'est un peu chapardeur là. Bref, un chat au grand cœur, toujours prêt au combat et qui n'hésite pas à se lancer au secours des faibles pour les protéger, quitte à y laisser des poils et devenir pour un moment un chat. Un chat comment? Allez-y les enfants, aidez-moi, un chat. Voilà. Eh bien, un chat pelé, c'est un chat auquel il ne reste presque plus de poils.
Le 22 janvier 1980, sortait dans les librairies La Soupe aux Choux, le nouveau roman du célèbre écrivain René Fallet, auteur entre autres du Triporteur, des Vieux de la Vieille, d'Un idiot à Paris ou encore du Braconnier de Dieu, tous adaptés avec plus ou moins de succès au cinéma. Et pour écrire cette histoire, mêlant ruralité et science-fiction, on a dit que l'écrivain s'était fortement inspiré d'un album de Spirou de 1975, écrit par Fournier, à savoir Du cidre pour les étoiles, qui présente de nombreuses similitudes avec son roman, similitude que René Fallet n'a jamais confirmée. Découvrant le livre à sa sortie, Patrick de Funès, celui qui est dans la médecine, le montre immédiatement à son père, pensant que cela ferait un excellent film pour lui. En effet, non seulement le roman parle du monde paysan, sujet qui passionne un de Funès très attaché à la Terre, mais en plus il est question de soucoupes volantes et d'extraterrestres, éléments qui firent du dernier gendarme en date un carton.
Mais t'es tombé bredine pour montrer comme ça ton cul à tous les passants!
Louis va donc mobiliser ses collaborateurs favoris, à savoir Jean Giraud et Jean Alain, ce dernier étant, je le rappelle, scénariste de nombreux de Funès, dont Les Trois Fantômas, et ce pour écrire à trois mains l'adaptation de La Soupe aux Choux. Et comme pour l'avare, de Funès s'occupera de la direction d'acteurs et Jean Giraud de la technique. Cependant, cette fois-ci, De Funès ne sera pas crédité à la mise en scène, certainement pour ne pas brouiller les pistes, comme pour le film précédent.
Bref, le village en avait pris un coup dans la pipe. Pour le dire tout net et noir sur blanc, il n'y avait plus rien au village. Ou plutôt si, il subsistait encore, vaille que vaille, au hameau des Gourdiflots, deux exotiques. Deux fossiles de la plus belle eau, deux pauvres ch'tites créatures.
Et donc, le 2 décembre 1981, sortait sur les écrans français La Soupe aux Choux, qui renouait avec la tradition des films où De Funès partageait la vedette avec d'autres grands acteurs. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un duo, mais bel et bien d'un trio, celui que Louis forme avec Jean Carmé d'un côté et Jacques Villeray de l'autre. Si De Funès et son équipe sont restés assez fidèles au roman original, ils ont néanmoins enlevé les intrigues annexes concernant les villageois. N'en resteront donc que quelques brèves séquences avec Henri Jeunesse en gendarme et Claude Jansac en Amélie Labredine, la folle du village.
Il était 3h du matin, un besoin pressant de se faisant sentir, je sors en courant dans le jardin et qu'est-ce que je vois? Une soucoupe volante. Et puis un homme, il en est sorti et le Claude, il était là, ils se sont embrassés, dites donc, et puis ils ont mangé la soupe aux choux.
De ce fait, l'histoire se recentre sur deux vieux paysans, à savoir le Glaude, joué par De Funès, et le Bombay, qui est un bossu, interprété par Carmé. Véritable paria dans leur commune, ils passent quasiment tout leur temps à se saouler avec du pastis ou du vin, tout en s'empiffrant de soupe aux choux, avec toutes les conséquences gastriques que ça entraîne.
J'ai quand même pas foutu les étoiles, là.
Oh, il paraît qu'il y en a des mille, des mille, des mille.
Écoute ton verre, là, écoute ton verre, là.
Mais avec tout ce boucan, les paysans finissent par attirer un alien et sa soucoupe volante, qui atterrit précisément dans leur champ. Et son pilote, joué par Jacques Villeray, se trouve nez à nez avec le Glaude, lui parlant alors dans une langue un peu spéciale.
Allez, entre. Mais pourquoi t'es venu ici, chez moi et pas ailleurs? Mais si tu m'en racontes pas, je saurai jamais d'où que tu réchappes, vieille denrée.
Tu nous as écouté péter de là-haut?
Mais qui t'a cru? Qu'on t'appelait?
Ah bah si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes.
Pour fraterniser, le paysan décide de lui donner une portion de soupe au chou avant qu'il ne retourne sur sa planète. Et donc, quand l'alien, que le glauque surnomme maintenant la denrée, rend visite une seconde fois à son nouvel ami, il a entre-temps assimilé sa langue, qu'il parle bien sûr avec l'accent paysan.
Ça fait des nuits et des nuits que j'attends que tu viennes me faire la conversation avec tes bruits de dindon.
Je suis là, monsieur Ratinier.
Tu parles?
Vous m'avez appelé, je suis venu.
Je t'ai appelé, enfin si on veut, parce qu'à ce compte-là, Chéras, il t'a appelé aussi, lui.
Vous m'avez appelé plus clairement que lui.
Nous dites Dieu, on va se taper
à quelqu'un. Enfin, à sa dernière visite, la denrée fait une proposition au Glaude, proposition qui risque de changer sa vie à tout jamais.
Il faut absolument que vous veniez chez nous, puisque vous savez planter les choux à la mode de chez vous.
Les brûlots !
Non, je suis pas brûlot ! Oxo est une planète à oxygène où vous pourrez vivre jusqu'à 200 ans sans maladie ni infirmité. Et quand vous serez là-haut, il vous restera 130 ans à vivre au lieu de 10, avec beaucoup de chance.
Mais je ne me vois pas vivre 130 ans sans shopping, sans tabac, avec un caillou à bouffer à midi et une capsule le soir, là.
Une escadrille d'astronefs déposera sur Oxo tout ce dont vous aurez besoin durant votre longue vie, y compris le tabac et le vin. Garantie sans fleurs ni dépôt.
J'irai jamais dans ton patelin de mes fesses, tu comprends? Ah.
Comme son fils Patrick l'avait prévu, au départ, de Funès fut attiré par le message du roman, à savoir des thèmes qui lui tenaient particulièrement à cœur, comme l'extinction progressive du monde paysan, ainsi que le manque de considération des jeunes vis-à-vis de leurs aînés. Mais à l'arrivée, s'ils sont bien présents dans le scénario, le traitement de ces thèmes dans le résultat final manque totalement de finesse et de subtilité. La faute en incombant, une fois de plus, à Jean Giraud, complètement dépassé par la dimension philosophique de l'histoire. À la place, le co-réalisateur préfère se concentrer sur tous les éléments comico-science-fictionnels pouvant rappeler aux spectateurs le gendarme et les extraterrestres.
On pète, Sissis. On pète comme l'autre soir.
Il est pété, toi, que le dernier en compote.
Mais pète donc, nom de Dieu !
Sans oublier l'attraction principale du film, qui plut tellement aux enfants, à savoir les séquences où les deux héros s'adonnent à leur passe-temps préféré, flatuler en chœur. Bon, je vais les laisser finir, hein. Je vous présente mes excuses. Bon, c'est fini? Ah non, pas encore. Voilà, merci.
J'en ai point le cœur, mais point le moral.
Si les effets spéciaux sont un peu plus élaborés que la précédente aventure du gendarme, ce qui n'était pas très compliqué, ils font néanmoins triste figure si on les compare à ce qui se faisait en face à la même époque, comme le premier Indiana Jones. Mention spéciale à la combinaison de la denrée, sortie tout droit d'un spectacle de fin d'année pour école primaire. Mais la soucoupe volante est en revanche relativement réussie. J'ai dit relativement. Hein.
Vous avez droit à une chopine, monsieur Ratinier. Par repas? Ah non, par jour! Que buviez-vous quotidiennement?
5-6 litres, comme le bombé!
Mais vous êtes fou!
Même si De Funès réussissait à sortir enfin de son habituel personnage de patron dictatorial, son interprétation du Glaude était l'une de ses moins convaincantes depuis qu'il était devenu star. En effet, s'il fait convenablement son métier dans les séquences de pure comédie, et ce malgré ses problèmes de santé, il est assez décevant dans les scènes avec son épouse ressuscitée, jouée par Christine Dejoux. Séquence extrêmement sentimentale, ce qui, nous le savons, n'a jamais été le point fort de l'acteur.
Je m'en vais, mon Glaude, mais j'ai pas voulu partir sans dire au revoir.
Tu pars ?
À Paris.
À Paris ? T'es pas folle ?
Ça te fait pas trop de peine que je m'en aille ?
Il vous fait rire à ton idée ?
Justement, les idées, on n'a plus les mêmes, alors on ferait que s'engueuler.
J'ai aimé que toi. Je te souhaite tous les bonheurs, ma Francine.
Moi aussi, mon Glaude.
De ce fait, il est complètement éclipsé par les deux autres têtes d'affiche, notamment Jacques Villeret. En effet, celui-ci campe un extraterrestre hilarant et inoubliable, rappelant parfois Bourville quand il se laisse aller à l'émotion.
Ma soupe, s'il vous plaît. On y va. Sens-moi ça, si ça sent bon. Ça sent la terre. Ça sent la terre. Après la pleu. Parce que par ici, on dit pas la pluie, on dit la pleu, parce que c'est encore plus mouillé.
La terre après la pleu.
Voilà, tu parles comme un vrai oum.
Je parle comme un vrai oum.
Goûte un peu.
Elle est de mieux en mieux, le Glaude.
Tu m'as appelé le Glaude. Ça prouve que t'as chaud dans la carcasse.
Oui, le Glaude.
Mais celui qui domine la distribution, c'est incontestablement Jean Carmé, incarnant, lui, un véritable paysan de la tête aux pieds. Et ceux qui pensent que ce grand amateur de vin devait être constamment bourré sur le tournage, afin d'interpréter son personnage le mieux possible, ils se mettent au doigt dans l'œil. En effet, le vin que le Glaude et la denrée buvaient en grande quantité était remplacé sur le tournage par de l'eau colorée. Cependant, le film terminé, Louis fera livrer plusieurs caisses d'un très grand vin à son partenaire de jeu.
Elle glow, mon eau. Elle a une température de haute précision pour le perniflard, au degré près. Si c'est glacé, ça tranche le vent. Mais là, ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles. Regarde donc. C'était mon Claude.
À sa sortie, le film atteint à peine les 3 millions de spectateurs, soit 1 million de plus que l'Avare, certes, mais quand même beaucoup moins que la moyenne des autres de Funès. Mais une fois de plus, c'est à la télévision que le film fera une seconde carrière, voire même l'objet d'un véritable culte. Diffusé à peu près 18 fois depuis le 10 janvier 1984 sur Antenne 2, les adultes et les enfants imiteront sans relâche les sons d'un denré. Non mais moi je le fais mal.
Oh non de Dieu, non de Dieu, versez-moi un canon, Claude.
Comment?
Bah tu comprends-tu pas, verse-moi un canon, non de Dieu.
Et la musique du film, de par son aspect synthétique résolument kitsch, sera constamment reprise et remixée. Elle était composée par Raymond Lefebvre, musicien attitré de Jean Giraud, qui délaissait pour la seconde fois son grand orchestre pour l'usage d'un synthétiseur, mélangeant allègrement le style paysan avec la dimension science-fictionnelle à deux balles du film. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès.
Vous écoutez Cinéma Radio.
Pardon ?
Vous écoutez Cinéma Radio.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je crois qu'il veut vous embrasser.
Cinéma Radio.